puisque vous aurez des notes à prendre. J'ai été moi-même professeur de l'IUT, je l'étais encore il y a 7 ans. Je sais bien que c'est pas très amusant de faire de prendre des notes. Et je ne voudrais pas que mes conférences soient des motifs à supplice. Bon. En tout cas, ceux qui veulent le prendre sérieusement, ben, le prendront sérieusement. Ça leur profitera sûrement un jour. Puis ceux qui veulent prendre ça comme une distraction, le prendront comme une distraction. Et je vais dire une chose assez légère, d'une certaine manière, puisque je parlerai des sectes. Et comme vous savez, les sectes ne sont pas une chose sérieuse. Je ferais peut-être mieux de me mettre comme ça, non ? Bon. Et d'autre part, je parlerai d'une chose sérieuse, qui est la naissance de l'Amérique. Alors c'est à vous de choisir le sérieux ou le distrayant dans ce que je dirais. Je vais peut-être incidemment parler en même temps d'une chose très d'actualité dont vous devez entendre parler ou dont vous discutez peut-être entre vous. Un sujet ni sérieux ni grave, mais terrible. Un sujet qui est de la dynamite en soi. J'avais parlé de l'invasion et de l'émigration, qui est, je crois, un sujet très actuel. Je vais chercher incidemment dans quelle mesure un État se fonde sur l'invasion et sur l'émigration ou l'immigration. Car l'Amérique, en fait, s'est fondée sur les deux, sur l'invasion et sur l'immigration. Le problème sera peut-être, en conclusion, de voir si un État peut se fonder sur autre chose que cela, ou bien seulement sur l'invasion, ou bien seulement sur l'immigration. Essayons de définir, avant de commencer, proprement dit, l'exposé, essayons de définir les termes et ce que j'appellerais les lois générales de la naissance d'un État, d'un empire, disons. Un empire, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand État. C'est un État qui tend à recouvrir le monde et qui, dans une certaine mesure, le recouvre pendant un certain temps. Comme l'Empire assyrien il y a 4000 ans ou l'Empire romain il y a 2000 ans. Ça peut être de plus petits États, de plus petites durées, comme l'Empire français, par exemple, pendant tout le 19e siècle. Comment donc naît un État ? Cet État qui deviendra un empire. Eh bien, je crois qu'il se fonde, sur deux instincts, assez différents. Ce que j'appellerais l'instinct de conservation, et ce que j'appellerais l'instinct d'expansion, de domination. Le premier instinct n'est pas propre à l'homme. On le trouve chez les animaux, notamment les mammifères, et plus spécialement les grands fauves. Il s'agit d'acquérir un territoire et de le marquer pour le garder. Au départ de la constitution d'un État, il y a en effet invasion, c'est-à-dire conquête. Et usage de moyens qui permettront de garder ce territoire, de le marquer, comme un chien ou un lion marque son territoire. Et dans un deuxième temps, il y a un instinct beaucoup plus humain, plus grégaire, disons, mais qui est connu des oiseaux, qui est connu de certains reptiles et de certains poissons, et qui serait l'instinct de développement, l'instinct de peuplement. Voilà. Pour qu'il y ait empire, il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait un peuplement. Le territoire se conquiert, le peuplement s'assure par deux moyens essentiellement. Enfin, le peuplement est toujours un développement démographique, bien sûr. C'est-à-dire que les habitants du territoire, et non plus le territoire lui-même, dans le temps et non pas dans l'espace, les habitants vont se développer, vont devenir de plus en plus nombreux, ce qu'on appelle le développement démographique. Ça va être par les naissances, c'est-à-dire la production, production humaine ou animale, et puis aussi la production mécanique, artisanale, industrielle, etc., propre à cet état, à ce pays, à ce peuple, qui va s'enrichir, se développer, s'accroître. C'est un développement absolu, je veux dire qu'il n'y a pas de relativité, on part de 1, ou de 2, ou de 3. Nous verrons, on part de quelques individus. On part d'un individu. En ce qui concerne l'Amérique, on part de Christophe Colomb. Hein, c'est clair. On part d'un et on arrivera à être des millions, des centaines de millions, peut-être un jour des milliards. Par sa production propre. Et notamment par la reproduction sexuelle. Et aussi, on se développe de cette manière par l'immigration de peuples autres, de races autres. Et nous étudierons précisément les deux cas, mais particulièrement aujourd'hui peut-être, le phénomène de l'immigration. Nous verrons que ces deux instincts, qui deviennent deux méthodes de constitution d'empire. Je répète la marque du territoire d'une part, le peuplement d'autre part. Ces deux moyens, ces deux méthodes entraînent des lois, obéissent à des lois très précises que j'appellerai des lois secondaires, puisque je viens de vous parler des lois générales. J'appellerai des lois secondaires ou particulières, peut-être à chaque état. Et nous étudierons surtout ces lois particulières en ce qui concerne l'Amérique, et particulièrement les États-Unis d'Amérique. Alors, au début, donc, il y a possession, il y a conquête d'un territoire. C'est vrai de tous les États. Rome s'est fondée à partir d'un couple mythique, d'ailleurs le départ est presque toujours mythique, un couple mythique, Romulus et Rémus. C'est généralement le fondateur et le poète, ou celui qui apporte un élément matériel et celui qui apporte un élément mythique ou poétique. En ce qui concerne l'Amérique, ça a été légendairement, mythiquement, le fait de quelques hommes. Christophe Colomb est à l'origine de la légende, il n'y a pas de question, c'est hors de doute. 1492, je vous donnerai peu de dates, et les dates sont essentielles dans mon exposé, je vous en donnerai le minimum, je vous demande de les noter, parce que ces dates ensuite deviendront importantes et créeront peut-être ce qu'on appelle un cycle, ou ce qu'on appelle un rythme cyclique. En 1492, il y a donc découverte d'Amérique, découverte mythique, j'insiste là-dessus, des Amériques. Voyez-vous, pendant cinq siècles, Rome a cru et dit, les historiens romains ont dit que Rome était née de la création de Rome par Romulus et Rémus, c'est-à-dire les Gémeaux. Et puis cinq siècles après, au temps d'Auguste, au temps du grand État, du grand Empire, un autre homme, Virgile, un autre poète, Virgile, a dit pas du tout, ça date d'Énée. C'est un exilé de Troie, rejeton des grandes familles troyennes, qui est passant par Carthage, passant par la Méditerranée, traversant la Méditerranée, est arrivé et a formulé, en somme, le premier germe de Rome, bien que Rome n'existât pas encore et que bien que Rome fût à l'époque plutôt un pays latin où il fallait donner une civilisation latine, étrusque, entre autres. Donc on avait, à partir de l'an 0, ou de l'an moins 28 exactement, au temps du Christ, l'avènement mythique du Christ, on a reculé dans le temps, si vous voulez, l'avènement de Rome de cinq siècles, de Romulus et Rémus, à l'autre mythe d'Énée. Actuellement, en Amérique, on en est encore au mythe de Christophe Colomb, à la fin du XVe siècle, mais tout laisse prévoir que dans peut-être 100 ans ou avant 100 ans, on défendra la théorie, on propagera l'autre légende, que l'Amérique, en tant que civilisation, en tant que création d'État, date des Vikings, date de l'an 1000, et que dès l'an 1000, des envahisseurs, qu'on appelle Incas et qu'on appellera Aztèques ensuite, Incas au sud de l'Amérique, Aztèques dans l'Amérique centrale, sont venus chasser les civilisations anciennes, les civilisations proprement indiennes, pour créer une autre civilisation. Bon, nous n'en sommes pas encore là et nous partirons seulement aujourd'hui de Christophe Colomb, 1492. Il est certain que quand Christophe Colomb arrive là-bas, et ceux qui vont suivre, Pizarre, Cortés, ils vont trouver des peuples dégénérés qui n'ont pas 100 ans ou 2 siècles, 3 siècles au maximum d'existence, c'est-à-dire dont les empires ont pris naissance au XIe, XIIe siècle, XIIIe siècle. Et ce sont ces petites civilisations que les envahisseurs occidentaux vont anéantir. Ils vont les anéantir d'une manière incompréhensible pour l'esprit rationnel. Ben, ils vont être une cinquantaine d'hommes, quelquefois 35. Qui vont traverser l'Amérique du Sud et qui vont asservir des centaines de milliers d'hommes. C'est comme ça. Alors on nous dira que les Aztèques, d'une part, les Incas de l'autre, savaient qu'ils allaient finir, savaient, leur prêtre leur disait que leur temps était fini, et que les nouveaux dieux allaient venir de l'Occident, et que par conséquent, quand ils ont entendu l'arquebuse ou quand ils ont vu le cheval, ils se sont trouvés devant des phénomènes tellement étranges qu'ils ont tout de suite cédé, non pas à la puissance militaire, mais à cette sorte de puissance intellectuelle, spirituelle, qui animait ces hommes-là. Colomb, Pizarre, Cortés, au nord, Jacques Coeur, etc. Ça s'est fait très vite, ça s'est fait en 20-30 ans, entre 1490 et 1530. De telle sorte qu'en Europe, les grands écrivains du XVIe siècle, savent que quelque chose de formidable s'est passé. Ils savent que quelque chose a été découvert à l'ouest, comparable à ce qu'était Rome, la Rome naissante, pour les Grecs ou les Hellénistiques. C'est pas moi qui fais le parallèle. C'est un homme comme Thomas More, par exemple, dans son Utopie, en 1519. C'est Rabelais, c'est Montaigne, dans le cinquième livre de ses essais. C'est Nostradamus, c'est Paracelse, c'est tous les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes du XVIe siècle. Prophètes, pourquoi ? Parce qu'ils disent tout de suite. Ils disent quelque chose est arrivé, on a découvert une nouvelle Rome. Et quand Thomas More raconte l'histoire à venir des cinq siècles de cette Amérique à venir, qu'il situe sous le règne de la justice et de la rationalité, c'est-à-dire de l'utopie contre la Braxa mythique, eh bien, il ne se trompe pas tellement. Or, ils ne décrivent pas dans le détail tout ce qui va arriver à l'Amérique, mais ils décrivent en gros les rythmes, ils savent à quel moment il va se produire une nouvelle guerre des Albains et des Sabins, c'est-à-dire, ce sera la guerre de sécession, quand il va arriver une nouvelle libération de l'Amérique, comme la Rome s'était libérée des Hellénistiques, quand il va arriver que cette Amérique va peu à peu dominer le monde, tout cela est vu assez clairement dès le XVIe siècle. C'est très important parce que, avant toute analyse des sectes que je vais faire, avant toute analyse des sectes, il faut dire que les Américains, pas tous bien sûr, mais enfin ceux qui écrivent, ceux qui pensent, les poètes, les romanciers, les philosophes, les essayistes, et les Européens, qui les regardent croître, ne se trompent pas. Pendant 5 ou 6 siècles, ceux qui débarquent du Mayflower en 1620, en Amérique, ce sont surtout des puritains et des juifs. Ceux qui transmettre le message d'Emmanuel Kant, ce sont les transcendantalistes au 19e. Ceux qui écrivent à la fin du 19e ou au 20e, comme Lewis, comme Miller aussi, puis comme bien d'autres. Bon, tous ces gens-là savent que l'Amérique est en train de constituer une nouvelle Rome, un nouvel grand empire. Il n'y a pas le moindre doute. Et c'est ce qui explique, que, entre autres, que les lois et la constitution américaine, peu à peu, se calquera sur la constitution romaine. Qu'il y aura les deux grands partis comme il y avait les deux consuls à Rome, qu'il y aura une même construction depuis le plus bas niveau, les premiers élus des parlements, enfin, chambre des députés ou sénat, qu'il y aura ensuite des élections à un deuxième niveau et puis à un troisième niveau pour atteindre le président des États-Unis. Il y aura une constitution républicaine à l'image de la constitution romaine à partir de 500 avant Jésus-Christ, etc., etc. Nous allons voir ça dans le détail. Mais il est important de dire dès le départ qu'un État qui se développe est généralement conscient de ce qui va lui arriver. Et il est conscient de cela parce qu'il croit dans un éternel retour des cycles, il croit que les choses se répètent et il croit que l'Amérique croissante va renouveler les destins de la Rome antique. Alors, comment est-ce que cela va se faire ? Eh bien, cela va se faire, puisque nous avons parlé des mythes, mythes de l'éternel retour, mythes de républicains, mythes des deux conciles, mythes des dieux qui vont animer l'Amérique et qui vont être tout différents, bien sûr, des dieux romains. Puisque nous avons parlé de ça succinctement, il faut, dans le détail, voir si vraiment ce sont des sectes, des mouvements religieux, un ésotérisme continue, qui a fait la naissance et la croissance de l'Amérique. Je vais mettre dès le début, là encore, peut-être une première loi particulière qui va surprendre beaucoup, je crois. Et je vais prendre encore pour ça un exemple contemporain, immédiat. Ce sont les élections algériennes, vous savez, qui vont avoir lieu très bientôt. Le but de ces élections algériennes étant de savoir lequel va l'emporter. Parce qu'ils se combattent pour l'instant, mais il faudra bien que l'un des partis l'emporte. Le but de ces élections étant de savoir lequel va l'emporter, en fin de compte, en Algérie, des sectes schismatiques, religieuses, fanatiques, tellement fanatiques qu'il faut bien reconnaître que certaines sont associées au fanatisme, oui, je reprends le mot. Certaines sont associées au fanatisme de Kadhafi, par exemple, ou de Bagdad, bien entendu, ou de l'Iran. Ce sont des sectes religieuses qui ont plus ou moins chacune leur conception de Mahomet et qui rêvent d'un grand islam, qui rêvent d'un grand Maghreb en Afrique, Maghreb qui engloberait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, et qui constituerait une sorte de nouvel empire des Parthes, pour reprendre l'exemple d'autrefois. Sur le territoire africain. Et en face, nous avons un parti, peut-être pas athée absolument parce qu'ils font semblant aussi d'être islamiques, mais enfin qui a rejeté la plupart des lois islamiques au profit des lois socialistes, humanitaires, progressistes, qui sera contre l'inégalité des hommes et des femmes, contre le voile, contre une discipline religieuse outrancière, et qui voudra défendra réellement cette idée que les hommes sont égaux, qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas de peuple différent, et qu'il faut oublier toutes ces distinctions dans le grand mouvement socialiste et humanitaire de notre époque. Voilà les deux partis qui se battent en Algérie, qui se sont battus actuellement. Le parti religieux a failli l'emporter, les socialistes qui sont au gouvernement ont repris les choses en main, on a mis quelques religieux en prison, on a fait peur aux autres et surtout on leur a interdit toute action politique que les religieux eux-mêmes renoncé, puisqu'ils avaient, aux dernières élections partielles, il est vrai, ils avaient refusé même de voter, c'est-à-dire qu'ils avaient pratiqué une sorte de refus, de blackout sur les élections. Enfin, en tout cas, ils l'avaient proclamé. Cette fois-ci, il n'en est pas de même, ils viennent de proclamer qu'ils participeront aux élections. Donc, les prochaines élections vont vraiment opposer une tendance à l'autre. Et on va voir laquelle est la plus forte en Algérie. Or, il est certain que pour les socialistes français, ce serait une merveilleuse nouvelle, une merveilleuse réussite, que le parti socialiste, le parti progressiste algérien l'emporte. Ils y verraient une preuve que le socialisme continue de croître dans le monde. Au contraire, ils seraient sans doute très atteints par une victoire des religieux, des fanatiques religieux. Ça, vous le savez tous, si vous avez réfléchi un peu au problème, c'est élémentaire, c'est tout simple. Élémentaire, mon cher Watson. Mais une chose se déclenche là, qu'il vaut la peine d'y réfléchir. Et j'appellerais ça la loi des vases communicants. Parce que ça, vraiment, va vous éclairer le problème des sectes et de la naissance d'Amérique. C'est la même chose en beaucoup plus grand. Là, nous parlons d'un pays encore petit, l'Algérie, il a un petit problème, si vous voulez, alors que nous allons atteindre des problèmes beaucoup plus vastes. Mais c'est le même problème. Je dis qu'il faut faire très attention. En effet, si les socialistes l'emportaient en Algérie, qu'est-ce qui se passerait? Ben, ils rejetteraient bien sûr les fanatiques religieux. C'est-à-dire que les fanatiques religieux émigreraient en Europe. C'est-à-dire que l'Europe verrait se fortifier tous ces mouvements religieux, qui sont des mouvements aussi, vous le savez, plus ou moins rétrogrades, plus ou moins de droite. Et par conséquent, cette victoire socialiste des Algériens aurait un effet exactement contraire en Europe. Si au contraire les partis religieux l'emportaient en Algérie, eh bien évidemment, ce seraient les socialistes qui devraient fuir l'Algérie pour éviter la persécution. Donc la France serait ouverte obligatoirement à ces socialistes, et donc la France serait de plus en plus socialiste, et Mitterrand, par exemple, serait de plus en plus fort. C'est donc très important de ce problème des vases communicants est fondamental lorsqu'on veut comprendre l'histoire. Ce sont des choses qu'on ne vous explique pas sans doute dans les écoles secondaires ou dans les collèges ou les lycées quand on fait de l'histoire, mais c'est tout de même là ce qui importe peut-être, hein, ce qui importe un certain degré, un degré secondaire, disons. Or, j'ai dit que ça a été la clé, une des clés, du problème de l'émigration en Amérique et donc des sectes de l'Amérique. Là, nous allons voir à quel point c'est vrai. C'est vrai avec une exactitude hallucinante.